Je vais demander à Jessica Ormond de bien vouloir nous rejoindre avec juste quelques mots d'introduction parce que l'intervention de Fabienne Quiriot et vos réactions nous ont permis déjà de passer à un niveau sociétal du questionnement. Alors sans doute imagine-t-on difficilement, même si on en a parfois l'intuition, sans doute imagine-t-on difficilement à quel point les inégalités sociales peuvent déterminer ces sentiments d'humiliation et de honte que nous tentons depuis hier de mettre au travail. Il nous fallait donc le regard et l'analyse d'un sociologue pour éclairer, tenter d'éclairer cette dimension. Nous avons demandé à Jessica Ormond de nous apporter ce regard. Il est sociologue, il travaille à Phare, mais très honnêtement, je ne connais pas Phare, donc je vous laisserai évidemment le soin de nous le présenter. Phare pour l'égalité, organisme d'intervention sociologique et de formation. Il a publié différents ouvrages sur des sujets qui nous préoccupent. Je pense en particulier à un dictionnaire des dominations, c'est ça, et puis un ouvrage intitulé « L'éducation populaire à l'épreuve de la jeunesse ». Alors c'est intéressant parce que on aurait tendance d'habitude à inverser les facteurs, évidemment. Bref, il aborde cette problématique de lien entre honte, humiliation, inégalité, classe populaire. Vous avez bien entendu, classe populaire, le terme existe encore. Classe populaire en quête de respect, de dignité, d'égalité. Merci.
Bon alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement je m'appelle Jessica Ormond, je vais présenter rapidement qui je suis, d'où je parle et avant de dérouler un peu les éléments que je vous propose, enfin ma contribution à la réflexion collective pour le dire comme ça. Donc premier élément, donc mon titre de noblesse en tout cas effectivement c'est sociologue, donc à Phare pour l'égalité qui est un organisme d'intervention sociologique et d'action recherche plutôt situé dans le secteur du travail social et médico-social. Grosso modo on forme des travailleurs sociaux. Où on accompagne des travailleurs sociaux déjà en poste qui sont confrontés à une série de situations, entre guillemets problématiques, auxquelles ils sont confrontés dans le cadre du travail, et où il y a besoin, à un moment donné, de faire un pas de côté pour analyser la situation, mais surtout pas dans le but de faire de la théorie pour de la théorie, mais de la théorie qui soit agissante, qui permette d'agir tout de suite dans la pratique. D'accord ? Donc du coup, pour le dire comme ça, on intervient avec trois types d'acteurs et ça va être important parce que ça vous donnerait une petite idée aussi de l'approche qui sera la mienne, là, ici. À Phare pour l'égalité, du coup, on intervient parfois avec des politiques publiques dont on vient de parler là maintenant, donc des élus, des institutionnels, dont ceux qui décident de nos vies, pour le dire comme ça, et qui financent nos métiers pour agir sur des gens ou sur des problématiques. Ensuite, on travaille donc des professionnels de terrain, travailleurs sociaux et autres, associations de quartier, etc., donc qui sont financés par les institutionnels et qui agissent sur des gens ou sur des problématiques. Je fais exprès de le dire comme ça, c'est vilain. Et troisièmement, c'est peut-être une de nos particularités, on agit avec du coup les usagers, les habitants de quartier, donc les gens qui vivent, bénéficient ou subissent l'intervention des politiques publiques ou des professionnels de terrain. D'accord ? Et si j'insiste sur ces trois types de publics-là avec lesquels on travaille, c'est que vous savez comme moi que le regard que nous avons sur une réalité sociale dépend de la place qu'on occupe dans la société et on n'a pas tout le temps la même analyse, la même sensibilité et on ne perçoit pas forcément les mêmes solutions en fonction qu'on soit élu, professionnel de terrain ou soi-même premier concerné par une situation. Sur la question de la pauvreté ou du chômage, il arrive que les analyses se rejoignent et les solutions, il arrive pas mal que les solutions ne soient pas du tout les mêmes si on demande à des élus, à des professionnels de l'insertion ou à des chômeurs, qu'ils soient militants ou non, leur analyse du chômage et de ses effets ne va pas forcément être la même et surtout les solutions à apporter et l'urgence des solutions à apporter ne va pas toujours être la même. D'accord ? Donc en tout cas, pour nous, en tant que sociologues, c'est important d'accéder à une pluralité de regards pour accéder à une partie du monde, en tout cas, essayer de la sentir d'une façon un peu particulière. Deuxième élément, pour vous dire aussi qu'on n'est pas seulement dans le courant d'action-recherche, seulement des observateurs de l'action des autres. Il arrive parfois qu'on fasse de la recherche, de la formation, diagnostic un peu classique. On observe, voilà, on produit de la connaissance, etc. On produit aussi de la connaissance avec des professionnels de terrain, et parfois avec des premiers concernés aussi, qui sont producteurs d'intelligence et de savoir social aussi, qu'ils soient prolo ou pas, qu'ils aient fait des études ou pas. Vous l'avez vu hier, je pense, avec ATD Carmonde, qui ont dû forcément vous parler de ces enjeux-là, qui sont fondamentaux, et qui font partie aussi des enjeux de dignité, d'ailleurs. Et puis, peut-être un dernier élément, et donc là, ça sera aussi un élément de précaution et de vigilance. On aime bien, en tout cas, et surtout dans l'époque qui est la nôtre, à faire pour l'égalité, on revendique, du coup, puisqu'on est sociologue, une certaine démarche scientifique. Par contre, en tant que sociologue, du coup, on a appris à déconstruire la production sociale des sciences et que toute science n'est pas forcément objective à 100%. À partir du moment où il y a un être humain qui pose son regard sur une réalité, il contribue déjà à la déformer par un prisme. Vous savez qu'il y a des théories qui circulent aujourd'hui, qui avaient l'air scientifiques au 19e, et qui sont complètement perchées et incroyables aujourd'hui. Ben, il y a des choses qu'on produit aujourd'hui qui paraîtront complètement perchées demain. Et puis d'autant plus sur un sujet qui est le nôtre, nos propres appartenances sociales ont aussi une influence sur le savoir qui est produit et sur nos sensibilités scientifiques, éthiques et politiques. Et donc du coup, je ne vais pas me cacher derrière le statut de sociologue, on a plutôt l'habitude avec les collègues d'assumer les engagements, des prises de position scientifiques quand on revendique en tout cas une forme de savoir qu'on estimerait le plus objectif possible, ou en tout cas on a l'impression que celui-là il fait sens par rapport au réel. Et puis on assume aussi des formes de prise de position citoyenne dans la mobilisation de ce savoir-là. Pour le dire autrement, ce matin-là, je vais vous proposer des analyses, vous en disposez. Celles qui font sens pour vous et qui font écho à vos pratiques, bah vous le prenez, vous les mettez dans votre petit sac à malice. Et celles qui ne vous parlent pas, bah faites-vous confiance, soit je raconte n'importe quoi, soit je ne suis pas réveillé, j'ai un peu du mal à être vivant ce matin, ce qui est possible aussi, soit simplement, nous ne sommes pas d'accord sur les analyses du fonctionnement de ce monde et des solutions à apporter, et c'est très bien. En démocratie, qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas forcément un problème. En tout cas, moi, je vais assumer ma subjectivité, je vous demanderai d'assumer la vôtre également, avec grand plaisir. Alors, deuxième élément de présentation, et en fait, je suis déjà en train de rentrer petit à petit dans le... En fait, dans ma présentation, je rentre déjà dans le sujet, vous vous rendrez compte. Deuxième élément, du coup, comme on a dit que notre histoire sociale, personnelle, transpirait dans nos positions professionnelles, nos prises de position professionnelles, bah, je dois un peu vous dire qui je suis derrière ma casquette de pro. Du coup, premier élément de positionnement, je suis issu des classes populaires, des classes ouvrières. Je suis un petit fils de mineur de fond dans le bassin minier, près de Hénin-Beaumont. Et donc, du coup, en tout cas, cette appartenance de classe, cette origine de classe, me fait donc, en tant que citoyen, être attentif aux inégalités de classe. Et bah, c'est bien pratique aussi quand on devient sociologue, puisque manipuler les données des catégories socio-professionnelles, des formes de classement de pauvreté, etc. Bon, ça fait partie du métier, du coup, ça aide. Et donc, je vais vous parler aussi de ces enjeux-là, mais être sensible à la dimension des classes sociales, c'est aussi être attentif, justement, à d'autres dimensions des inégalités de classe qui ne sont pas seulement économiques, qui sont aussi dans les formes de paternalisme, de condescendance, de ces manières dont parfois les classes moyennes et les classes supérieures, même involontairement, ça fait partie du fonctionnement social de notre système, regardent toujours de manière hautaine les classes populaires à nier leur savoir, nier leur culture, etc., et parfois reproduire des formes d'humiliation, de manque de respect, et qui participent, du coup, au sentiment de honte de soi, voire parfois de haine de soi. Deuxième élément, je suis un issu de l'immigration, donc parfois je vais faire des fautes d'orthographe involontaires, là c'est fait exprès. Je suis un issu de l'immigration, puis en même temps je ne le suis pas. Je le suis parce qu'objectivement j'ai des origines en partie polonaises, italiennes, belges, françaises, puis... Vous savez, dans les quartiers populaires, à force de vivre et de travailler ensemble, bah, ça se mélange, comme elle dit Mémé. Ils nous parlent d'Europe ou des Nations Unies, mais en fait, il suffit d'aller dans les quartiers ouvriers, puis t'as l'International de la Terre qui y travaille. Bref, maintenant, il y a aussi des Marocains et des Algériens dans la famille. Donc c'est bien mélangé, tout ça. Mais en tout cas, si je dis ça, c'est aussi parce que donc, j'ai une attention particulière au processus inégalitaire raciste, à ces formes particulières d'atteinte aussi à l'intégrité, à la dignité, à la santé, qui sont liées au racisme. Et comme ça vous aura peut-être... pas échappé ou pas d'ailleurs, comme ça se voit peut-être pas, je suis donc un homme hétérosexuel qui a grandi dans une société machiste, sexiste et homophobe comme l'est la société française, et donc du coup ça me fait être attentif à un autre processus inégalitaire aussi qui est le sexisme et le patriarcat, mais du coup cette fois-ci non pas du point de vue d'un ancrage en lien avec les populations dominées socialement, mais plutôt clairement comme appartenant à une classe d'hommes bénéficiant du patriarcat dans plein de situations et qui me rend compte que ce processus-là me facilite la tâche parce qu'il ne facilite pas la tâche du groupe des femmes, pour le coup. Donc je vais jongler à des moments dans mon intervention sur ces trois ancrages inégalitaires. Effectivement, le dictionnaire des dominations, du coup, c'est le dictionnaire des dominations de classe, de sexe et de race, avec des grandes guillemets. Alors, ça va pour l'instant, en tout cas ? Du coup, au truc aussi, s'il y a des moments où je ne suis pas clair, alors quand j'aurai la lumière dans les yeux, je ne vous verrai pas bien, mais n'hésitez pas à me faire des grosses grimaces si vraiment je vous ai largué sur un truc, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un exemple pour qu'on puisse avancer ensemble dans l'intervention. Alors, premier élément, je vous remercie beaucoup de m'inviter à participer à votre journée, et puis, en fait, je vous remercie beaucoup de l'organiser tout court, parce que les enjeux de dignité et de honte, et de respect, et aussi des questions d'humiliation, font partie aujourd'hui des enjeux qui sont extrêmement sensibles, fondamentalement importants et pour une bonne partie des professionnels de terrain qui sentent quasiment jour après jour à quel point ces données-là sont sensibles, fondamentales effectivement dans le vécu ordinaire des familles, des jeunes ou des moins jeunes avec qui on peut travailler. Alors, du coup, premier élément, sur la question de la honte et de l'humiliation, ou de la dignité et du respect, en tout cas dans une approche sociologique, ça ne vous surprendra pas, ma contribution, ça va être tirée justement vers une approche sociologique et un peu structurelle de l'analyse, quand peut-être d'autres ont pris une approche complémentaire hier. Premier élément, en sociologie, on va appeler ça des sentiments sociaux, et notamment parce que du coup, on va estimer que ces sentiments, ces émotions, ces états d'âme, pour le dire comme ça, sont en fait au croisement à la fois d'éléments psychologiques, mais y compris de biologie, et ça j'y reviendrai après sur les questions de santé, comment la honte et l'humiliation impactent la santé même physique, pas que mentale, physique, ça pourra paraître surprenant, mais je vous en donnerai quelques éléments, du coup du fonctionnement du monde économique et aussi de la politique. Comment il y a plusieurs facteurs qui en fait entrecroisent ces notions-là de ces sentiments sociaux-là. Il y a du social derrière, et je vais essayer de vous en dire deux mots. Deuxième élément, peut-être pour essayer de caractériser un petit peu quelques-uns des enjeux, notamment autour de la question de la honte et de l'humiliation ou de la dignité. Je ne sais pas si hier, le ou la linguiste, je crois que c'était une linguiste, qui a réussi à vous définir ce que c'est que notamment la honte, par exemple, ou la dignité, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si elle l'a fait, si elle a réussi, je veux bien avoir des petits éléments d'information. Et si elle ne l'a pas fait ou qu'elle n'a pas réussi à le faire, eh ben, j'aurais envie de dire quelque part, c'est tant mieux. Ou c'est pas grave. Cette notion-là, me paraît, en tout cas, c'est une proposition que je vous fais, elle est assez étrange. Quelque part, alors on dirait dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est comme la fricadelle, tout le monde y en parle, personne n'y sait ce qu'il y a dedans. En fait, c'est étrange parce que la dignité, c'est un des concepts qui est abordé par tout le monde. Personne ne voit bien de quoi on parle. Et en même temps, on a tous une intuition où on sent ce qu'elle veut dire et à quel point cette notion-là, elle est importante. Ah bah, ça tombe bien, alors je ne suis peut-être pas si bête que ça. En tout cas, je vous propose de pouvoir l'apprendre comme quelque chose d'un petit peu flou et d'autant plus important, parce que ce qui est le plus important, c'est comment les gens la mobilisent. Mobilisent ces termes, plus que de les définir dans un dictionnaire et de les figer, en fait. Ça me fait venir, du coup, sur un deuxième élément un peu d'actualité. La notion de dignité... en tout cas moi qui travaille plutôt dans les quartiers populaires et qui est attentif aux dynamiques de lutte populaire en France et aussi ailleurs dans le monde, ça vous aura peut-être pas échappé, le terme de dignité est aussi en train de redevenir un mot mobilisateur important. Il y a les zapatistes au Mexique avec le sous-commandant Marcos là, qui avait fait la marche de la dignidad, en Espagne aussi avec le mouvement des indignés. C'était indigné, pas exactement comme nous on l'entend, c'était aussi indigné sur en rapport à cette question de la dignité, de la dignidad. Il y a quelques années de ça, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une marche nationale contre le chômage et pour la dignité, organisée notamment à parler des collectifs de chômeurs. On est en 2017, donc je crois que c'était en 2016, ou c'était que cette année, du coup j'ai un petit doute. Ça me paraît déjà loin et proche à la fois. Et il y a eu une grande marche d'organiser au mois de mars, qui était la marche contre le racisme et pour la dignité. Notamment à l'initiative de femmes, des sœurs, des mères ou des tantes, en tout cas des familles, mais notamment par les femmes qui ont perdu un membre de leur famille assassiné par les forces de l'ordre et par la police. D'accord, sur les fameuses violences policières, crimes policiers, etc. Et en tout cas, le terme dignité revenait encore là. Et bref, je ne vais pas le détailler, mais l'enjeu de la dignité, le terme dignité revient assez régulièrement dans un certain nombre de mobilisations, effectivement, il est mobilisateur, et avec une, on dit une dialectique ou une dualité, enfin, vous ferez comme vous voulez, mais en tout cas, il est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie des termes dans l'histoire des mobilisations populaires et des luttes, qui est justement, face à des injustices qui sont parfois brutales, et je vais vous en dire deux mots, l'enjeu de la dignité même est aussi un élément qui permet de se remettre debout face à ce qui nous fait tomber. Du coup, puisqu'on vient d'aborder aussi les questions de fatalisme, de sentiment d'impuissance, etc., en fait, autour de la dignité, il y a aussi un enjeu important pour se remettre ensemble debout collectivement. Alors maintenant, je voudrais... en tout cas, je suis très content de l'exposé qu'il y a eu juste avant, parce que du coup, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps et de m'appuyer dessus aussi. Deux éléments d'interrogation, en tout cas, que j'avais prévu de faire, puis qu'on a que je vais faire sauter. Le premier, c'est la question un peu de la schizophrénie qui a été dit tout à l'heure, là, sur ou l'hypocrisie, ou sur des ambiguïtés de notre société qui, effectivement, revendiquent plein de beaux mots, de bien-être, de citoyenneté. On a parlé de participation des habitants, droits des usagers. Puis maintenant, la dignité, ça va faire partie de ça. Enfin, il y a plein de beaux mots qui circulent, et de plus en plus. Et c'est assez particulier, parce que du coup, on voit que les mots, des beaux mots, circulent partout. Et au même moment, il y a une difficulté pour des professionnels de terrain, et parfois pour les citoyens, d'entendre ces mots en permanence, et d'avoir l'impression que ces mots sont bafoués au quotidien dans leur vie concrète. Il y a quelque chose qui devient effectivement schizophrénique dans cette fameuse contradiction entre des droits formels, dont on a parlé là, et l'absence de droits dans le réel. Pareil, je reprends vraiment ce couple-là, parce que c'est quelque chose qui je pense qui doit être assez structurant de nos réflexions. Pareil, quand on parle d'égalité formelle en France, dans la République, etc., les valeurs de la République, et en fait, on est plutôt en train de constater des inégalités réelles. Et là, on pourrait peut-être dire que bah, maintenant, on vient de passer à la question du tout de la dignité formelle et puis en fait de l'indignité réelle pour pas mal de citoyens. Donc, premier élément, celui-là qui a l'impression de... voilà, il y a des contradictions dans le fonctionnement de nos sociétés. Et ce n'est pas seulement que des impressions. Et ça, du coup, c'est le deuxième élément sur lequel je vais avoir besoin d'insister. Enfin, moi, peut-être vous, et en tout cas des familles, on a un côté un peu paumé, faut le dire, dans ces contradictions dont je viens de parler, dans le fonctionnement de notre monde. Et quand je dis paumé, vous savez, c'est un petit peu comme aussi un peu sonné. Enfin, régulièrement, on a l'esprit un peu embrouillé sur plein de réalités. C'est assez compliqué parce qu'on a des formes d'injonction. Vous connaissez le concept d'injonction paradoxale un petit peu ? Vous en avez déjà reparlé ? Tout le monde, ou il y en a qui ne le connaissent pas bien, parce qu'il est fondamental, ce concept-là. Est-ce qu'on a même une personne qui ne le connaît pas, le concept d'injonction paradoxale, ou c'est bon pour tout le monde ? C'est possible que... Donc, du coup, j'en dis deux mots quand même. Une injonction, donc vous voyez ce que c'est, une injonction, c'est pas un ordre, mais c'est bien plus qu'une demande. Ok, ça va à peu près dire comme ça, une injonction en justice, t'as intérêt à t'exécuter quand même, quoi. Dans le cadre du travail, dans les relations hiérarchiques, on a des injonctions en permanence. Donc c'est pareil. Je te dépose ça. Tu me rempliras, finiras ce dossier pour demain, parce que c'est le financement. Je te rappelle que ton poste, il est en jeu là-dessus. Bon, c'est une demande, mais un peu plus qu'une demande, quoi, quand même. Hein. Et une injonction paradoxale, donc ça, c'est un terme qu'en tout cas, en sociologie, on pique à la psychologie. Une injonction paradoxale, c'est quand, effectivement, on nous fait deux demandes très strictes, qui ne sont pas réalisables parce que les deux s'opposent. Quand on conduit en voiture, c'est tourne à droite, et puis en fait on te demande de tourner à gauche, et quand tu tournes à gauche, on te dit de tourner à droite, puis tu dis, je peux pas faire les deux, c'est l'un ou l'autre. Et si je reprends mon injonction paradoxale dans le cadre du boulot, donc je t'ai donné mon dossier à faire pour demain, etc., et puis après, en fait, et je te rappelle qu'on a une réunion d'équipe tout à l'heure, tu viens à la réunion d'équipe tout à l'heure, et puis dans la réunion d'équipe de tout à l'heure, et ben après je te dis, je constate quand même qu'en fait les éducs, là, vous n'êtes pas suffisamment sur le quartier en train de parler les gens, vous êtes trop souvent dans vos bureaux. Donc il faudrait qu'un peu plus que vous soyez au contact des gens et que vous montiez des projets avec les gens, etc. Machin. Bon, ça c'est une très belle injonction paradoxale. Je fais quoi ? Je fais des dossiers dans mon bureau ou je suis sur le terrain ? Je ne peux pas faire les deux. Et ça, clairement, en psychologie comme en sociologie de la santé, on sait que les injonctions paradoxales produisent des burn-out, produisent du pétage de plomb. Et du coup, c'est la manière dont le corps humain et le psyché... l'esprit a de réagir face à une solution qui est intenable, bah, comme la situation est intenable, bah, les gens ne tiennent pas. Et le cerveau fait crrrr, il se débranche. D'accord ? Donc ça, je le dis au niveau individuel, mais vous voyez bien que là, la manière dont je vous raconte ça, on voit bien que dans ces trucs d'injonction paradoxale, c'est pas seulement le directeur qui est chiant. C'est qu'il y a un système social, managérial, les contraintes, un peu dont on a parlé tout à l'heure, qui organise ces injonctions intenables. Et du coup, bah le gros paradoxe, et là je vais y revenir un peu, je ne sais pas tout ce qui a été dit hier, vous m'excuserez si je répète des choses. En tout cas, le paradoxe qu'on a aujourd'hui quand on s'intéresse aux enjeux de dignité, de fierté de soi des publics, de respect, de droits, droits de l'homme, de plein de choses comme ça, bah le gros paradoxe, c'est qu'en fait, on est sur des, comme des espèces de concepts qui insiste sur l'humanité des gens et de renforcer ce soutien à l'humanité, etc., j'en sais rien. Et de l'autre, en fait, on vit dans une société qui est déshumanisante et qui déshumanise de plus en plus. Peut-être pour en donner quelques-uns, par exemple, notamment, puisque là, ça a été, on a un peu parlé de ça, la logique gestionnaire et managériale. Clairement, la logique gestionnaire et managériale néolibérale, puisque le terme a été employé, et déshumanisant au possible. Dire, on n'a pas besoin. Enfin, ça va, je crois qu'on peut. Maintenant, ça a suffisamment été travaillé dans l'espace public pour qu'on ait tous en tête que oui, le travail tue et tue de plus en plus au fur et à mesure qu'on applique le management, quand bien même il s'appelle. Maintenant, ils parlent de management humaniste, tout ça. Enfin, il y a des trucs, c'est incroyable, quoi. Participatif. Hein. Et du coup, ce qui est assez terrible, c'est qu'une partie de ce discours-là, de ce management avec les beaux mots, derrière les mots et ceux qui fabriquent les méthodes, donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais il faut que j'aille creuser là-dessus, des gens qui ont parlé de... comment il va s'appeler, du coup évidemment, je vais avoir oublié le terme. En tout cas, des managers qui ont puisé dans les techniques d'organisation du travail issues du nazisme, par exemple, pour augmenter la productivité et savoir qu'en brisant la volonté des gens dans le cadre du travail, on augmentait l'efficacité et qu'on pouvait accroître le profit. Effectivement, ça fait des pertes. Ça vous fait pas drôle, ça, d'entendre ça ? Il y a des écoles. Du coup, j'ai oublié le concept parce que du coup, c'est un terme. C'est un courant de pensée dans le management, mais employé par pas mal de multinationales au niveau mondial. Donc j'arrête sur ça. Je pense que ce lien-là, il est quand même pas mal choquant. Et du coup de savoir qu'en fait il y a des gens qui sont formés à tuer toute forme de résistance dans le cadre du travail, donc y compris à se débarrasser du droit, de l'humanité, etc., à condition que ça permette d'augmenter les marges de profit. Je ferme là-dessus, mais en tout cas, bien pour insister qu'on est vraiment sur une société qui marche, on est sur des paradoxes en permanent et c'est pas toujours facile d'avancer là-dessus. Avant de réaborder quelques-uns des enjeux pour nous, en tout cas des questions de honte, d'humiliation et de dignité, je voudrais reposer derrière les relations individuelles que nous pouvons avoir avec les gens qu'on accompagne. En sociologie, on dit on appelle relations sociales quand il y a des individus qui se parlent ou bien des groupes de personnes physiques qui se parlent, mais on dit que ce qui structure ces relations sociales sont aussi des rapports sociaux. D'accord ? Donc ça, je suis pas sûr que vous soyez tous familiers de ce jargon-là sociologique. Il faut pas forcément le retenir. Mais c'est par exemple, si moi je suis un homme qui fait un entretien avec une femme, on peut avoir des relations là sociales à ce moment-là, de professionnelles, etc. Mais il y a aussi des rapports sociaux de sexe, de domination patriarcale qui jouent. Moi j'ai beau être Jessie, je suis sympa, j'ai soi-disant des bonnes valeurs, etc. Je fais ce que je peux. Ouais. Mais en fait, on s'en fout de ta bonne volonté à toi. Tu t'inscris dans le cadre d'un système patriarcal qui va me créer des automatismes à moi et à l'autre personne, et notre relation personnelle, elle va être structurée par le sexisme aussi, y compris quand je ne le sais pas. Pareil sur la question des rapports sociaux de classe, j'ai beau être sympa, j'ai des origines ouvrières en plus, mais ce n'est pas un vaccin. Je peux, moi, du fait que j'ai été, par exemple, j'ai accédé à des diplômes et que j'ai été formé par l'université, et du coup, par des savoirs sociaux qui ne sont pas des savoirs populaires transformés en capital scolaire, je vais un petit peu vite là, mais c'est des savoirs qui sont des savoirs de classe moyenne ou des classes supérieures à l'université. Je veux dire, c'est pas bac plus 5 en master du syndicalisme ouvrier, quoi. En tout cas, du fait de cette formation-là, mais moi aussi, je transpire de stéréotypes, de préjugés, potentiellement de mépris de classe, moi aussi. Donc il y a bien des rapports sociaux qui vont me structurer dans mon rapport Bon, ça vous parle quand je dis ça ? Et donc ça, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, ou du conscient parfois, mais en tout cas qui nous traversent et qu'on transpire, et qui peut faire que nous aussi, on participe au processus de honte et d'humiliation des gens avec qui on travaille sans forcément le savoir. Parce que pour le dire autrement, derrière mon jeu à moi, en fait, il y a un nous et il y a la société qui transpire, qui me transpire. Bon, c'est là, on est carrément dans l'approche sociologique, là, vous vous en doutez pas mal. Alors du coup, quel est l'état, en tout cas quelques éléments du contexte, notamment de ce qui fabrique les vies en termes d'inégalité, en quoi ça va fabriquer après les questions aussi de honte et d'inégalité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelques chiffres, quelques tableaux, des grands chiffres de la pauvreté, par exemple, des inégalités ou des choses comme ça, pas trop, un petit peu. Alors du coup, si je me permets sur l'aspect classe sociale, d'insister par exemple sur un des chiffres, par exemple sur la question du chômage. Et je fais aussi un peu l'autodéfense citoyenne à l'usage des statistiques. On nous dit par exemple que le taux de chômage, vous savez qu'il est à 9-10% en moyenne. Il faut toujours se méfier des moyennes. Il faut toujours se méfier des moyennes parce que, en fait, derrière les moyennes se cachent de grandes disparités beaucoup plus importantes. Une moyenne, par exemple, admettons que vous gagnez tous 1 000 euros par mois, là, par tête de pipe. Il n'y en a pas un qui a un salaire différent. C'est de revenus différents. On est tous à 1 000 euros. Et il y a un milliardaire qui rentre dans la salle. Ben, il change toute la moyenne et vous devenez millionnaire d'un seul coup. Et pour les gens, ils vont dire « Ah, dis donc, dans la salle, t'as vu, ceux qui organisent le colloque, c'était tous des millionnaires. » Putain, tu fais, non, moi, j'ai toujours pas grand-chose dans la poche. Mais la moyenne a changé. D'accord ? Du coup, pour les questions de santé, les questions de différents types d'inégalités, c'est la même chose. L'INSEE vient de produire des nouvelles stats sur l'état du chômage par quartier populaire. Il y a des villes où le taux de chômage aborde les 40, 50%, 60%, 70% de chômage. Alors je vous assure que quand on a un contexte de chômage structurel massif comme ça, les discours de très libéraux encore, enthousiastes, non mais quand on veut, on peut. Ah, faut avoir un petit peu de motivation quand même, faut se motiver dans la vie, on n'a rien sans rien. Arrêtez de vous victimiser là tout de suite, là alors. Hein, faut arrêter avec les discours victimaires là, faut être un peu acteur, sujet de sa vie, faut faire un peu de l'empowerment de sa vie et blablabla. Ça, c'est destructeur en fait des gens. Ça crée de la honte, ça produit de la honte et ça crée de l'humiliation. Parce qu'on est en train de dire à quelqu'un qui est en train de qui s'est fait choper la jambe par un requin qui tire au fond de l'eau, mais dépêche-toi de remonter enfin. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc du coup, déjà là, on a une donnée. Il reste déjà que 2 minutes, c'est ça?
Plus le temps d'échange avec la salle.
Très bien. D'accord. En tout cas, du coup, sur la question par exemple, le taux de chômage, voilà, j'en ai donné un élément. Ensuite, c'est pas que la question de la pauvreté que je vous invite à regarder, c'est bien celle des inégalités. Comme vous l'avez vu peut-être passer ou pas dans l'actualité, sur les inégalités, notamment au niveau mondial, le rapport de l'ONG Oxfam a montré, là, en janvier 2017, en faisant l'analyse des statistiques de 2016, petite info, les chiffres sur lesquels cette ONG se base sont les chiffres issus des principaux cabinets de consultants des plus grandes multinationales. Donc ce n'est pas des chiffres produits par des gauchistes qui viennent dénoncer les multinationales, c'est leurs chiffres internes. D'accord ? Et du coup, cette année, on a 1% de la planète qui possède la moitié des richesses mondiales. L'année d'avant, le 1% possédait 45%, l'année d'avant, il possédait 40%, l'année d'encore, il y a 4 ans, il possédait 35%. C'est en train d'augmenter considérablement. D'accord ? Et quand on compte les 20% les plus riches de la planète cette fois-ci, ils possèdent en entier, alors là, pour ceux qui l'ont vu, moi je me suis pris une rouste dans la gueule, ils possèdent ensemble, les 20% les plus riches de la planète possèdent 94,5% des richesses. On est 80% de la planète à vivre sur une part du gâteau qui fait 5,5% des richesses mondiales. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas que vouloir lutter contre la pauvreté sans lutter contre les inégalités. Il faut qu'on se redise qu'il y a un petit lien entre les deux quand même. C'est important, et ça j'y reviendrai après. Le type d'analyse qu'on mobilise ou pas dans le cadre de notre métier a un impact aussi sur notre sentiment d'impuissance et de fatalisme, et y compris dans l'accompagnement du vécu des gens. Alors juste peut-être quelques autres chiffres, et puis il ne faut pas que je sois long parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Sur la question des discriminations racistes, par exemple, un seul chiffre là, le Bureau international du travail, le BIT de l'ONU, donc qui a fait une étude en interrogeant non pas les victimes de discrimination, mais les potentiels discriminants, et là les employeurs. Et dans leur enquête, 4 employeurs sur 5 disent, assument, que à candidature égale, CV égale, compétences égales, préfère employer le candidat français blanc, pour le dire comme ça. Là, dans l'étude, c'est appartenant au groupe majoritaire et pas embaucher des minorités visibles. Bon, bref, blanc, noir, arabe, vous faites comme vous voulez, mais voilà. 4 employeurs sur 5. C'est-à-dire que la question des discriminations à la société française, c'est pas qu'aux États-Unis qu'il y a le racisme qu'il faut qu'on dénonce au journal de 20h de temps en temps. C'est bien que le type d'analyse qu'on fait sur les États-Unis, on le plaque aussi sur la société française. C'est fondamentalement structurant notre fonctionnement et pas seulement le racisme de skinhead néo-nazi, etc., ou du Front National. Ça va un peu plus loin, le fonctionnement inégalitaire de ce point de vue-là. Et puis peut-être un élément aussi sur la question du sexisme. Là, sans parler des questions des violences conjugales et viols, etc., là, qui, je le rappelle, ne se passent pas que dans les banlieues et dans les quartiers populaires. C'est dans toute la pyramide sociale, de bas jusqu'à très très haut. D'ailleurs de manière à peu près proportionnelle dans tous les milieux sociaux. C'est juste que le sexisme et les viols dans les classes supérieures, on n'entend pas parler à la télé, quoi, en fait. Mais sur la question de la précarité et de la pauvreté, c'est toujours important de se rappeler que la pauvreté, elle est fortement féminine, en fait. 80% des emplois précaires, par exemple, en France, sont occupés par des femmes. Ok, donc j'arrête là, parce qu'on n'a pas le temps d'aller trop là-dessus, mais en tout cas, juste pour dire que actions individuelles en tant que professionnels, quand nous on travaille avec des groupes, ils s'inscrivent dans un contexte qui est inégalitaire et qui contribue à fabriquer la ville morale ou l'absence de morale des gens, etc. Je vais revenir maintenant un peu sur cette question de comment on fait pour aborder la notion de dignité, par exemple. Je veux juste vous inviter à saisir que selon les situations, la dignité, en tout cas, préserver la dignité, faire valoir sa dignité, en tout cas, souvent, elle est mobilisée au moment où il nous arrive une forme de violence ou une forme d'inégalité. C'est quand il y a une injustice que la dignité, elle est revendiquée. Et selon les mobilisations, du coup, parfois, cette violence, ça peut être une violence économique, une loi qui va maltraiter des salariés, etc. On va dire qu'elle va aussi être une atteinte à la dignité des personnes. Quand des personnes ne peuvent plus donner à bouffer à leurs enfants, c'est l'aspect économique, mais donc ça atteint la dignité. On a aussi des formes donc de violence parfois qui peuvent être de l'ordre de violence culturelle qui peuvent atteindre la dignité. Alors là, de violence culturelle, ça paraît un peu, c'est peut-être pas si évident que ça, ou Bourdieu parlait de violence symbolique. C'est des formes de violence sociale qui nous atteignent, qui peuvent nous blesser, nous meurtrir à l'intérieur, mais comme ça passe par la communication, par les images, c'est quelque chose, un pain dans la gueule, tu le sens que c'est de la violence. Mais la violence symbolique dont parle Bourdieu, c'est pas forcément quelque chose de visible, pourtant ça blesse aussi fortement à l'intérieur. La violence symbolique chez Bourdieu, par exemple, si je reprends l'histoire du monde ouvrier, c'est la capacité de pouvoir faire, même quand il y a des expos sur le monde ouvrier, par exemple, on va parler énormément de tous les aspects de maltraitance physique, de la dureté au travail, mais en fait, le monde ouvrier est jamais perçu comme producteur de culture. Jamais on va penser à mettre en avant, par exemple, les romans écrits par des prolos. On va oublier de rappeler qu'une série de lois sociales dont nous bénéficions tous ont été inventées par des ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire? Le moment où, dans l'histoire des lois et d'un récit des grandes victoires, des grandes créations, des grandes inventions, il y a des peuples, les créateurs sont effacés. Pareil sur les violences symboliques racistes, par exemple, c'est le fait que dans la plupart, vous serez attentif à ça, la plupart du temps, quand il y a des gens qui citent des gens dans un article, que ce soit scientifique ou autre, c'est quasiment que des hommes blancs occidentaux qui sont cités. C'est hyper rare déjà que ce soit des femmes. Ça arrive plus quand c'est des femmes qui citent d'autres femmes déjà. Et puis quand c'est des non-blancs qui sont cités ou des gens non occidentaux. Comme si la pensée de l'humanité elle avait été fabriquée qu'en Occident. Or que c'est clairement faux. Mais c'est un des restes de nos réflexes. En fait, dans ces moments-là, c'est une forme de violence symbolique qui vise à dire l'intelligence est blanche en fait, et les noirs sont des corps. C'est le truc de la colonisation, ça, en fait, c'est le racisme colonial. Donc des fois, quand on oublie aussi de faire valoir, moi j'aime bien par exemple, c'est un exemple hein, sur la question de la sociologie, c'est pas Marx, c'est pas Durkheim et c'est pas Weber qui ont inventé la sociologie au 19e, ce qu'on nous apprend quasiment dans tous les cours de sociologie, c'est aussi Ibn Khaldoun par exemple, qui est un des fondateurs de la sociologie comme science, etc. Bref. Alors, je voudrais conclure sur un élément pour moi qui en tout cas que je vous partage dans les expériences que j'ai pu avoir d'accompagnement de famille ou de personnes. Qui montrait en tout cas pour moi les enjeux de cette question de dignité et de respect qui s'ajoutent aux violences physiques, aux violences économiques, etc. Est-ce que je dois vous rappeler dans l'imaginaire social, normalement je crois qu'on doit pouvoir l'avoir, que par exemple si on prend la question de la condition des mineurs au 19e et mineurs de fond là au charbon, au 19e ou au 20e siècle, en termes de violence au travail, de violence exercée sur les corps, je ne vous fais pas un dessin, on voit à quel point c'est pénible, la pauvreté ça nous parle bien. Pourtant il y a un truc qui est étrange dans cette histoire ouvrière là, c'est que la question de la fierté de soi et de la dignité, elle est pourtant la tête haute. Et là on a un exemple clairement pour moi de ces processus-là, que c'est pas parce qu'on est dominé qu'on est forcément humilié, c'est que l'humiliation c'est un autre processus qui se rajoute à celui-ci. D'accord ? Et du coup il y a tout un enjeu notamment de remobilisation de soi pour déjà on est dominé, mais qu'à partir d'une place de dominé, on arrive à avoir retrouvé de la fierté et de la confiance en soi, de l'amour de soi, qu'on lutte contre les processus de haine de soi, etc. Et ben aujourd'hui, en fait, il me semble que ces processus-là, c'est les processus qu'on a perdus en route, peut-être avec la modernisation managériale, j'en sais rien. En tout cas, il y a une forme de technicisation de nos métiers et de dépolitisation de nos pratiques. Alors du coup, l'invitation que je vous fais, c'est, vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est une invitation que je vous fais, même si vous n'êtes pas trop d'accord, allez creuser du côté du moment où, dans le travail social notamment, l'héritage de l'éducation populaire était un des héritages structurants et assez forts. Je vous le dis peut-être un peu rapidement, vous savez que dans les métiers du travail social et médico-social, pour aller un peu vite, il y a trois grands courants structurants historiquement. Un courant qui est le courant de la domestication sociale et du contrôle social des gueux, pour pas qu'ils se révoltent. Le courant de la civilisation, on va civiliser les pauvres, pour les faire être propres, le courant l'hygiénisme, bien parler, être etc. Mais par contre, pour qu'ils s'adaptent à une société, fût-elle inégalitaire. D'accord ? Et il y a grosso merdo un troisième courant qui est plutôt un courant de l'auto-organisation et qui vise à l'émancipation, à la transformation sociale. Donc c'est pas seulement être pauvre, mais être propre, c'est plus être pauvre dans le troisième courant. D'accord ? Ça marche ? Puis dans le troisième courant, éventuellement, que tu es propre ou pas propre, c'est peut-être pas forcément l'enjeu principal. Et du coup, je voudrais insister, puisque ce troisième courant de la transformation sociale et de l'émancipation, c'est un des courants qui est clairement en minorité et en faiblesse. Là, je voyais ça dans les interventions précédentes, ça titillait un petit peu que, bah là, au vu de la société, ce qu'on est en train de produire, et elle produit du fatalisme, pas seulement sur les gens, elle produit du fatalisme aussi sur les professionnels, là, aujourd'hui, clairement. Et je voudrais rappeler un processus qui est un processus, je pense qu'Athalie Carmonde a un peu la même méthode, en fait, c'est un processus qu'on repère dans tous les mouvements de lutte et les mouvements d'émancipation. Avant de devenir des mouvements de lutte et des mouvements d'émancipation qui arrachent des droits, qui élargissent le périmètre de la cage, à défaut de détruire la cage, mais parfois on arrive à détruire la cage aussi, la cage de l'oppression, hein, j'entends, ou des injustices, le premier élément du processus, c'est déjà d'ouvrir des espaces de parole où on se parle, des espaces d'expression, où les gens ont quelque chose qui ne va pas et qu'ils puissent déjà en parler. C'est déjà un pas énorme, parce qu'il arrive parfois dans des structures qu'en fait les gens font des entretiens sur des bureaux avec des professionnels du travail social, mais jamais ils peuvent déverser leur colère, par exemple. On leur pose jamais la question « qu'est-ce qui te met en colère, toi, aujourd'hui ? C'est quoi les injustices qui te révoltent ?» Puis, par exemple, « c'est quoi tes espoirs ou tes rêves ?» C'est une pédagogie qui a disparu. On va dire « c'est quoi ta difficulté aujourd'hui à laquelle je dois répondre ?» Mais il n'y a pas d'espace de colère. Pardon ? Non, mais... Oui, non. Il y en a. Exactement, ouais. Mais ce n'est plus une pratique majoritaire. En tout cas, il ne me semble pas que les projets sociaux ou les activités de nos structures, on les démarre en début d'année sur le terme même de colère, quoi. Alors qu'à une autre période, c'était une pratique beaucoup plus développée. Sauf que juste parler, ça ne suffit pas. S'exprimer, ça ne suffit pas. Dans ces démarches de processus d'émancipation et d'éducation populaire, le deuxième processus, le deuxième moment, c'est une fois qu'on se parle et qu'on parle avec d'autres gens, on se rend compte que le problème qui nous arrive, ce n'est pas un problème personnel, alors que moi, je croyais que c'était moi qui étais pauvre. C'était moi qui n'arrivais pas à éduquer nos gosses. C'était moi qui étais malade. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur, etc. C'est moi qui ai honte, du coup, et qui suis humilié parce que j'ai l'impression que je suis responsable de ma situation. Comme, en fait, on a parlé ensemble, je me rends compte qu'il y en a d'autres. Ah, je ne suis pas tout seul. Mais si je ne suis pas tout seul, c'est peut-être pas moi le problème ou la source du problème. Ah, bah du coup, on va pouvoir aller à une troisième étape. Si je ne suis pas tout seul et qu'il y en a d'autres qui vivent mon problème, c'est peut-être qu'il y a une cause collective, quelque chose de collectif qui nous frappe. Troisième étape, on cherche laquelle. Et là, on commence à identifier, hors de moi, quelles sont les causes sociales, les causes structurelles, les causes politiques, les causes, tout ce que vous voulez. Et donc, ensuite, une fois qu'on a cette troisième étape, on est dans une quatrième étape qui est l'étape de l'analyse, où on fait une sorte de diagnostic, d'analyser la situation, pour arriver ensuite donc à une cinquième. Maintenant qu'on a bien analysé la bonne cause, en fait, finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'action avec une stratégie, une tactique adaptée à l'objectif qu'on veut avoir. Il arrive dans nos métiers, depuis quelques années, en fait, qu'on se limite parfois aux deux premières étapes. En tout cas, avec les gens. Parce qu'on ne leur demande pas à eux, vous voudriez faire quoi ? Et ça, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas entendu des gens qui me disent, dans le cadre de notre métier, en fait, les gens, la solution qu'ils ont proposée en termes de... On a fait un diagnostic participatif, la méthode ascendante, etc. Puis en fait, les gens, à la fin, ils ont dû en faire une manif, aller occuper la mairie ou la CAF ou je ne sais pas quoi. Puis en tant qu'éducateur spécialisé, on a été occupé la CAF. Bon, vous voyez, on n'en est plus là, alors que du coup, ça a pu être structurant parfois des tactiques possibles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des manifs tout le temps, ce n'est pas ça que je dis. Hein. C'est pas du tout ça, mais qu'à un moment donné, quand il y a une situation qui ne bouge pas par le dialogue... Normalement, en démocratie, on résout par le dialogue des situations problématiques. Quand le dialogue ne suffit pas, on passe au rapport de force, en fait. On doit changer les pratiques. Et alors, du coup, l'enjeu fondamental pour moi aujourd'hui dans ces questions de honte et d'humiliation, et je fais la conclusion là-dessus, il me semble qu'aujourd'hui, trop souvent dans nos pratiques, on n'a plus forcément de... Soit on prend plus le temps, ou en tout cas on n'a plus forcément d'accompagnement de type éduque-pop, là dont je vous parle, où avec les gens, on arrive aussi à interroger avec eux les causes collectives et structurelles de leurs difficultés. Et quand on reste, quand on zappe ce processus-là, on laisse effectivement les gens avec une partie de leur misère, quelle que soit la misère, l'injustice ou les difficultés qu'ils vivent, dans un mode d'un vécu individuel qui est culpabilisant et qui, lui, peut produire des formes de honte, d'internalisation de la responsabilité, de la culpabilité. On a un enjeu assez fort de remettre de l'analyse collective et populaire, et notamment sur la base de ce que vivent les gens et de ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas vous dans vos pratiques, mais on fait des séminaires sur la pauvreté entre professionnels. Il y a plein de thèmes, on se forme à beaucoup de thématiques. Ce n'est pas si souvent que ça qu'on se forme avec les premiers concernés, les usagers, sur la thématique qu'on aborde. Alors du coup, j'en sais rien. Peut-être que là, vous avez fait un colloque avec les premiers concernés de vos structures sur ce qu'ils pensent des mécanismes de honte et d'humiliation. Du coup, c'est chouette. Je veux bien attendre vos nouvelles méthodes. Mais en tout cas, c'est une invitation que je pense aussi, c'est casser la ségrégation des espaces de pensée où c'est plus possible qu'en tant qu'entre professionnels, on pense les malheurs des autres et les solutions sans voir eux comment ils les portent dans leur bide et dans leur trip pour trouver effectivement des solutions.
Merci.
Oui, donc en fait, c'est juste une question ouverte pour poursuivre la réflexion. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le bien-être est notre injonction paradoxale dans notre métier ? Voilà.
Eh ben...
bien joué.
Et Fabienne Quiriot pourra évidemment répondre aussi. Enfin, allez-y.
Oui, bonjour. Lassar Bendaman de l'UDAF des Bouches-du-Rhône. Donc moi, je voulais reprendre votre dernier propos. Là. Vous disiez que c'est quand les gens, les principaux concernés, qui se mobilisent et se réunissent, ça augmente les chances de réussite, de se sortir d'un certain niveau de misère. On l'a constaté avec RTD Carmonde, par exemple. C'est un exemple type. Avec quand se sont créés des groupes d'autosupport d'usagers de drogue, qui se sont pris en charge eux-mêmes pour éviter d'abord les maladies contagieuses comme le sida. Mais ça a été des exemples vraiment de réussite pour se réinsérer et en finir avec la problématique. Donc je crois beaucoup en ça, moi aussi. Et je trouvais que votre approche était très intéressante et très enrichissante pour nos pratiques au quotidien.
Bonjour, merci pour votre intervention qui me parle réellement dans le cadre de ma pratique professionnelle de directeur du DAF et pour les sources que vous allez puiser dans l'éducation populaire et le développement social local qui, à mon sens, est très bénéfique pour l'intervention sociale que l'on mène, nous, auprès des familles. Je voulais vous poser une question, savoir si vous pensez qu'il était possible de lutter contre un système, vous parliez d'émancipation, de lutter contre un système qui nous tient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des organisations qui ont des autorités de tutelle, des autorités de tarification, et dans votre prise de parole, il me semblait qu'il fallait quelque part faire un pas de côté, faire un pas en arrière pour réfléchir différemment sur la manière dont on allait permettre plus de dignité, plus de respect, d'égalité pour les personnes, et que le système était en quelque sorte un frein dans cette émancipation.
Alors du coup, si j'arrive à répondre à votre question qui est importante, un premier point en tout cas, moi y compris dans ma pratique du coup, je crois que clairement, on a des marges de manœuvre pour modifier l'état du système d'injustice dans lequel on vit. Sur le couple, là, pessimisme et optimisme, je ne sais pas si vous la connaissez cette phrase, là moi des fois il y a des phrases qui me tirent de point d'appui, un vieux monsieur italien qui s'appelait Antonio Gramsci, qui disait il faut arrêter d'opposer le pessimisme à l'optimisme. Aucun des deux, si t'es pessimiste, autant se crever la tête, quoi. Enfin, et si t'es optimiste dans un monde de merde, tu me joues de la flûte, mais j'ai toujours mal, quoi. Donc ça marche pas non plus. Et du coup, Gramsci disait, il faut savoir allier le pessimisme de l'intelligence, le pessimisme de la critique. Quand on regarde le monde et qu'on doit l'analyser, on doit le regarder froidement et dans toutes ses horreurs, à l'optimisme de la volonté et de l'action. On doit toujours être enthousiaste quand il faut pouvoir se mobiliser. Et ça, c'est souvent cette alliance des deux, le produit du changement social, voire des révolutions, des transformations plus systémiques. Par contre, sur la réponse sur est-ce que le système... du coup, je ne sais pas bien ce que c'est que le système. On va dire si c'est les politiques publiques dont on parle qui sont des freins aujourd'hui, en fait, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont clairement des freins et qui nous enfoncent, qui nous empêchent de changer les choses. Et d'autres éléments de ces politiques publiques qui sont des points d'appui et des supports pour pouvoir avancer. Pareil sur le système, si du coup on dit système patriarcal ou système capitaliste ou système raciste, on parle de système social qui structure nos vies, ceux-là sont des vrais freins, absolument, et là il n'y a même pas de points positifs sur lesquels se raccrocher pour pouvoir... par contre, du coup, nous, en tant que professionnels, on ne fait pas de la grosse transformation sociale quand on est pro. C'est les citoyens qui changent le monde. Nous, on est là pour essayer de résoudre des problèmes, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, immédiats, etc. Par contre, la question qui se pose à nous, c'est comment on articule nos actions quelque part locales, quelque part modestes, mais avec une perspective collective de transformation sociale. Et ça, ce lien-là, en fait, il me semble que c'est un des questionnements qu'on a du mal à réinterroger, et y compris quand on voit que notre propre pratique, là, depuis 10 ans sur le quartier, on lutte contre la pauvreté, mais en fait, il n'y a rien qu'à changer. Comment on réinterroge l'ensemble de nos pratiques pour que concrètement cette pauvreté elle recule, si c'est un de nos objectifs de faire reculer la pauvreté sur un quartier. Et en tout cas, du coup, de ce point de vue-là, je pense qu'on doit pouvoir se réapproprier aussi des pensées de la stratégie et de la tactique. Je ne sais pas si vous êtes formé à la stratégie ou à la tactique dans les métiers.
On appelle ça généralement la méthodologie de projet.
Ouais, justement, ce n'est pas exactement ça. Mais du coup, c'est des choses qui doivent, pour repérer les fissures, quand il y a un mur face à nous, il faut repérer les fissures et qu'est-ce qui permet soit de passer par au-dessus du mur, soit d'augmenter la fissure dans le mur. Et je pense qu'on a des choses encourageantes.
Une dernière intervention, désolé,
c'est
ça tourne.
Pas vraiment une question, mais c'est dans la suite des deux interventions de ce matin. Alors, c'est assez égocentré comme question, c'est le nombre de mesures par... délégué aux prestations sur le terrain, combien de chaque délégué doit suivre de famille, Et je m'aperçois que même ici, du coup, quand on parle de cette question, ben, selon les places qu'on occupe, ben, forcément, on ne l'appréhende pas de la même façon. Pour un délégué, c'est vraiment une déléguée, un délégué, c'est vraiment une question cruciale. Et quand on en discute avec des personnes de l'encadrement, mais ça, je dirais que c'est en général, ça vise personne, c'est banalisé parce que justement, il faut tenir cette injonction paradoxale. Et pour être sur des choses un peu pratiques, parce que du coup, quand on y retourne, je trouve qu'on en a aussi besoin. À un moment donné, je me dis que si cette question-là, elle pouvait être abordée de façon, comment dire, plus sérieuse, et comment on fait plutôt que de se repasser la patate chaude du haut à en bas, peut-être que la dignité des salariés et des personnes qu'on accompagne serait un peu plus préservé, et ça à tous les échelons de cette...
Merci. Allez, un mot pour répondre et ce sera la conclusion de cette séquence.
Bah, le mot de conclusion, en fait, je me repose aussi sur l'enjeu que vous venez d'ouvrir, de ne plus, d'essayer en tout cas de ne pas dissocier l'enjeu de la dignité des familles en difficulté dont, avec lesquelles on travaille, de notre enjeu de la dignité collective. Sinon, on risque de tomber dans une dignité en fait, qui est condescendante et de la charité. T'es pauvre, mais il faut qu'on travaille sur ta dignité et ta confiance en toi. On ne supporterait pas qu'on s'adresse comme ça à nous. Donc si on se dit qu'en fait, on travaille sur notre... l'amour de nous-mêmes, de la confiance en soi, de la fierté de soi, avec les gens comme nous, on aura envie de l'avoir pour nous-mêmes. En fait, en se remettant dans un nous, pas les familles et nous, mais dans nous en tant que citoyens aussi dans ces processus-là, j'ai l'impression qu'on a des pistes d'aération et des marges de progression, pour reprendre la méthodologie de projet, qui s'offre à nous et de manière assez effective et rapide. Je vous remercie, un bon courage.
Merci.
À vous.